France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h22. Donald Trump entame aujourd'hui une tournée dans les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis. Que va-t-il faire dans cette région du monde? Tournée diplomatique ou financière? Dollar ou diplomatie? Décryptage avec notre invité. Bonjour David Rigoulet-Rose.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste du Moyen-Orient et plus précisément de la péninsule arabique. Dans ce genre de voyage, on le sait, rien n'est laissé au hasard. Pourquoi choisit-il de se rendre en premier en Arabie Saoudite?
C'est effectivement pas anodin, puisque c'est lors de son premier mandat, c'était déjà l'Arabie Saoudite qui était sa première destination à l'extérieur. Et là, c'est de nouveau le cas. Ça montre à quel point les pays du Golfe en général et l'Arabie Saoudite en particulier ont une centralité géoéconomique et géopolitique aujourd'hui pour lui, incontestablement, puisque sur 3 jours, il va visiter 3 pays, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats. Et ça montre leur centralité, effectivement, à la fois régionale et même au niveau global.
Et il s'entend bien avec le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, contrairement à son prédécesseur Joe Biden?
Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça s'était déjà manifesté lors de son premier mandat. Il y a une relation personnelle. Il est très dans le registre interpersonnel, Donald Trump. Et il se trouve que avec MBS, le prince héritier Mohamed bin Salman, il y a un fonctionnement un peu similaire. Ils sont tous les deux transactionnels, dans une logique transactionnelle. Idéologiquement, ils ont pas de tabou. Et donc, ils fonctionnent un peu de manière similaire, même si chacun a des intérêts spécifiques à faire valoir.
Et donc Donald Trump, il vient faire du business ou de la diplomatie, ou les deux ?
Les deux. En réalité, avec Donald Trump, il y a une forme de privatisation des intérêts nationaux. Donc, il y a, d'aucuns parleront d'une relation incestueuse avec les affaires, de conflit d'intérêts.
Pour lui, il y en a pas. Mais parce que le business, est-ce que c'est pour les États-Unis ou pour sa société?
Les deux, juste ouais. de son point de vue, c'est les deux, effectivement, puisque la Trump Organization est sollicitée à travers ses fils, qui étaient déjà présents dans la région avant son déplacement, d'ailleurs. Et lui-même vient avec un staff de PDG, que ça soit Zuckerberg, Sam Altman pour OpenAI, Elon Musk, le PDG de BlackRock. Donc c'est effectivement, il y a une dimension business extrêmement importante, mais qui est pas forcément dissociable de la diplomatie qu'il développe à titre personnel.
Quel business? C'est plutôt nouvelles technologies, d'après les noms que vous m'avez cités là?
Alors oui, il y a incontestablement les nouvelles technologies. D'ailleurs, avant l'arrivée de Donald Trump, le prince héritier Mohamed bin Salman a annoncé un projet d'intelligence artificielle intitulé Human. Et donc, évidemment, les nouvelles technologies sont un élément central, à la fois en termes d'investissement et de développement, que ça soit aux Émirats Arabes Unis ou effectivement en Arabie Saoudite. Mais il y a d'autres projets, évidemment. Il y a toujours les contrats d'armement, il y a les contrat d'immobilier, puisque Donald Trump va construire sa tour Trump à Jeddah, en Arabie Saoudite. Il y a des grands projets immobiliers qui s'inscrivent aussi dans la vision 2030, qui est le projet de
Mohamed Ben Salman, ouais.
De Mohamed Ben Salman, notamment sur la mer Rouge, et donc la dimension immobilière. On retrouve l'ADN immobilier, évidemment, de Trump et de son entourage. Et d'ailleurs, Steve Witkoff, qui est son envoyé spécial au niveau politique pour la région, pour des négociations à la fois sur Gaza et sur l'Iran, est partie prenante aussi à travers ses fils, Zach et Alex Witkoff.
Et oui, tout est mêlé, vraiment.
Tout est imbriqué.
Et diplomatiquement, si on reste maintenant dans le couloir diplomatique, quel est le but de ce voyage?
Alors, le but de ce voyage, il est effectivement, comme tout est lié, il est de prendre date par rapport à un certain nombre de questions très sensibles. On évoque même une possible rencontre avec le président syrien, Ahmed al-Sharaa. C'est pas confirmé, mais c'est pas impossible, avec Mahmoud Abbas. Donc, il y a la question, évidemment, de Gaza, parce que là, on retrouve les pays du Golfe dans le cas d'un financement pour une hypothétique, très hypothétique reconstruction pour le jour d'après. Pour l'instant, effectivement, la question n'est pas d'actualité, mais le plan égyptien qui avait été présenté prévoyait 50 milliards de financement, justement, avec une mobilisation des fonds du pays du Golfe. Et puis, il y a la question iranienne, parce que évidemment, l'Arabie Saoudite est devenue un hub, en fait, de négociations. On l'a vu avec l'Ukraine, on l'a vu avec d'autres sujets, mais notamment avec les questions sur la problématique nucléaire iranienne, il y a un rôle de l'Arabie Saoudite qui est de plus en plus important. important.
Et il y a un grand absent dans tout ça, c'est Israël. Donald Trump ne va pas profiter de cette tournée pour se rendre en Israël. Et de plus en plus, Washington met de côté Israël dans ses négociations. Quand les États-Unis ont négocié directement avec le Hamas pour libérer le dernier otage américain qui était à Gaza. Pareil pour l'Iran, pareil pour le Yémen. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou ?
On a un peu surévalué la relation fusionnelle avec le gouvernement israélien. En réalité, il y a une forme d'irritation qui n'est pas explicitée de la part de Donald Trump par rapport à Benjamin Netanyahou, une forme de refroidissement. Ça n'enlève rien à la relation stratégie privilégiée entre les deux États, mais effectivement, Donald Trump est irrité, notamment parce que il avait un rêve, c'est l'intégration de l'Arabie Saoudite dans le processus d'Abraham, c'est-à-dire achever le processus d'Abraham en normalisant que l'Arabie normalise avec Israël. Or, c'est aujourd'hui devenu impossible pour l'heure, justement compte tenu de l'obstruction du gouvernement israélien de ses ministres d'extrême droite pour offrir une perspective politique à la problématique palestinienne. Et donc, du point de vue de Donald Trump, c'est un facteur irritant, effectivement. Et ça explique qu'il y a une forme de distanciation, même si elle n'est pas publiquement assumée, vis-à-vis du Premier ministre israélien. Et d'ailleurs, le projet de financement de l'aide humanitaire ne passe pas non plus par Israël pour ce qui est de la bande de Gaza, et mobilise au contraire les pays du Golfe.
Merci David Rigoulet-Rose, vous êtes chercheur associé à l'IRIS et vous étiez l'invité du 5-7.